Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous donc sur Radio Droit de Cité pour la dernière partie de cette émission Voyage à travers les étoiles. Alors si vous avez manqué les trois premières, eh bien vous avez manqué quelque chose. Alors on avait parlé entre autres de l'éclipse de soleil, on a parlé aussi d'Ariane 5 et puis donc ce soir on va parler sommes-nous seuls. On va essayer de répondre tout au moins à cette question. Et puis pour répondre à cette question, eh bien je reçois donc avec moi Monsieur Philippe Lougnonnet de l'Institut Physique du Globe de Paris, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Jean-Marie Delbos de l'Aérospatiale des Mureaux, bonsoir. Monsieur Jean Hinman de l'Observatoire de Paris.
Bien. Bonsoir.
Bonsoir. Monsieur Dominique Lecieur de l'Association Française d'Astronomie, bonsoir.
Bonsoir.
Et Monsieur Joël Minois de la Société Astronomique de France, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, donc on va parler, donc on va essayer de répondre à cette question sommes-nous seuls. Et sans plus tarder, avant de vous poser la première question, monsieur Hinman, j'ai été au collège de Bréval, collège Lénifar à Bréval, et puis j'ai questionné des adolescents qui se trouvent en 6e, 5e, et je leur ai posé la question croyez-vous aux extraterrestres? On écoute tout de suite.
J'ai entendu des gens parler de ça, des amis.
Non, parce que ça n'a jamais été prouvé qu'ils existent et j'ai jamais vu quelque chose qui me prouve que ça existe.
Ouais, j'y crois parce qu'il doit y avoir des planètes encore qu'on n'a pas encore identifiées et puis là-bas il doit y avoir une vie pareille que la nôtre.
Non, parce qu'on n'est pas sûr que ça existe.
Oui, je pense que sinon on n'aurait pas pu les imaginer comme ils sont et comme on aurait pu trouver des traces à quoi serviraient les autres planètes.
Non, vous existez pas.
Oui, parce que je vois pas pourquoi il y aurait des humains sur la Terre et il n'y en aurait pas sur les autres planètes.
Voilà, donc je sais pas si vous voulez réagir.
Si, parce que toutes les réponses que ces jeunes dans les 12-15 ans ou quoi.
Oui.
Oui, elles sont très très bonnes. Mm-hmm. Ils ne font pas la confusion abominable avec les ovnis. Qui est catastrophique, c'est d'ailleurs la confusion entre la recherche de vie dans le cosmos, entreprise par les scientifiques, les ingénieurs, etc., est complètement mélangée à toutes ces histoires d'OVNI à haut niveau. En particulier, les membres du Congrès américain se sont basés sur des faux rapports de ce genre-là pour couper les crédits au plus gros programme de recherche de signaux artificiels qui était à la NASA à l'époque. Donc, je suis très content de les avoir entendus dans cette veine.
D'accord. Alors, justement, là, on s'intéresse à la recherche de vie extraterrestre, mais est-ce qu'on a vraiment trouvé une forme de vie extraterrestre aujourd'hui ?
Non. Non, on avait parlé la dernière fois de fossiles éventuels dans une météorite qui provenait de la planète Mars, mais c'est pas sûr du tout pour l'instant, c'est possible, mais non, on n'a pas de traces. Alors, bon, attention, je sais pas par où commencer. Ok, bon, des traces, la vie c'est complexe, hein. ça part d'une chimie organique très compliquée qui s'est développée en des centaines de millions d'années dans les parties liquides de la Terre primitive. Ça a fini par donner des cellules qui étaient capables de se reproduire elles-mêmes et d'avoir un code interne pour gérer toutes ces opérations. Ça aboutit aux premières cellules, etc., puis aux animaux, et puis à nous en définitive, et à l'intelligence. Donc, pour l'instant, on a des fortes indications sur les premiers stages, parce qu'on a découvert des molécules organiques d'intérêt biologique, c'est-à-dire d'intérêt pour l'apparition de la vie éventuelle ailleurs. On a découvert dans l'espace interstellaire, dans les comètes, etc. D'un autre côté, on a découvert depuis quelques années seulement, et ça c'est un énorme progrès, l'existence de planètes et même de systèmes planétaires autour d'étoiles ressemblant au Soleil dans l'espace interstellaire. Donc ça va m'amener à tout de suite aller vers la question la plus importante. Sommes-nous seuls, hein, c'est ça. Bon, s'il y a des molécules organiques ailleurs, on se sentirait quand même seul un peu. Hein? Donc, en fait, on se pose la question de savoir si ailleurs, il y a des gens, des choses, des je sais pas quoi, qui sont intelligents. Donc, c'est la recherche d'intelligence extraterrestre. Alors, c'est basé sur, c'est une recherche scientifique, comme je disais, sérieuse, et comme toute entreprise sérieuse dans ce domaine, on se base sur des hypothèses de travail initiales qui ne soient pas trop farfelues. Alors, il n'y a pas tellement pour la question de recherche d'intelligence ailleurs dans le cosmos. La première hypothèse, ça consiste à dire que l'apparition de la vie et de l'intelligence sur Terre est le résultat d'une évolution naturelle de processus physiques du cosmos. Il n'y a pas eu un coup de baguette magique quelque part. La deuxième, ça consiste à dire que ce qui est arrivé sur Terre a pu arriver ailleurs. Bon, des ailleurs, maintenant, on sait qu'il y en a des planètes ailleurs. Et alors, la troisième hypothèse, celle-là, elle fait mal à beaucoup de gens, c'est de supposer que l'intelligence humaine n'est pas le summum, le nec plus ultra de ce que le cosmos a pu produire. Alors ça, ça déplaît énormément à beaucoup de monde, et en particulier aux hommes, aux humains, aux hommes masculins. Tandis que les femmes sont beaucoup plus réceptrices à ça, et c'est pour ça que cette recherche s'étire très mal considérée en général. Même dans des milieux évolués, comme l'Observatoire de Paris, Meudon, c'est très mal reçu. Alors, quand on met ces trois hypothèses bout à bout, personne ne peut dire qu'elles sont complètement débiles, on peut arriver à une conclusion qui serait que dans le cosmos pourraient exister des civilisations avancées. Alors, en particulier, nous, on cherche, en tant que radioastronome, on cherche à voir si on peut capter des émissions électromagnétiques, des ondes radio qui proviendraient, pas forcément d'une intelligence là-bas qui nous enverrait des signaux, mais de technologies très avancées. Une technologie très avancée, par les lois de la physique, doit émettre des ondes. Je donne toujours l'exemple d'un moteur de voiture. Il sert à faire avancer la voiture, mais il chauffe énormément, il crée de l'infrarouge, et ça ne sert à rien. Mais cet infrarouge s'en va, et c'est un moyen de détecter la présence d'une voiture, par le bruit aussi. Donc, on s'est lancé là-dedans depuis 40 ans maintenant, et pour l'instant, on n'a rien détecté. Bon. On en est là.
On est là, donc on n'a pas encore détecté vraiment de vie extraterrestre, mais on a donc prouvé qu'il n'est pas impossible qu'il en existe quand même. Hein.
Pas prouvé, on pense que c'est une hypothèse de travail raisonnable et que ça vaut la peine de tenter d'en avoir la preuve ou l'opposé d'une preuve.
D'accord. Monsieur Le Sieur, vous vouliez intervenir ?
Oui, juste pour dire, bon, c'est le dire d'une manière peut-être légèrement différente, mais c'est la même chose. Ça consiste tout simplement à se dire, voilà, les lois physiques qui existent sur la Terre sont valables dans l'univers tout entier. Alors, on constate sur Terre, et nous y sommes, et donc par conséquent, là, c'est flagrant, et on ne peut pas le dire autrement, la vie existe, et la vie est sortie du minéral et l'évolution a abouti à cette richesse extraordinaire qu'est la vie. Alors la question que se posent évidemment tous les astronomes devant ça, c'est tout de suite de se dire, bon, il est clair qu'à partir du moment où on a de fortes raisons de penser que les lois de la physique sont valables dans l'univers tout entier, les développements peuvent aller jusque-là ailleurs que sur la Terre.
Mmh. Oui, je vais même plus loin encore.
D'accord. Oui. Je vois Monsieur Lognonnet, vous vouliez intervenir.
Oui, en fait, je pense que le problème fondamental dans cette idée de recherche de la vie est de définir un petit peu l'horizon au-delà duquel on n'est pas capable techniquement de détecter un signal intelligent, disons. Et là, je pense quand même qu'il faut reconnaître qu'il y a des impondérables. Disons, il y a quelques dizaines d'années, on pouvait imaginer qu'il suffisait qu'une planète soit à la distance, une distance comparable de celle de la Terre, de son Soleil, pour que automatiquement, en fait, la vie existe plus ou moins sur cette planète. Mais entre-temps, en fait, on commence à s'apercevoir qu'il y a des nouveaux facteurs. Par exemple, la Terre a une lune très grosse. La lune de la Terre est la plus grosse de toutes les lunes, en fait, quasiment du système solaire. Il n'y a pas d'autres planètes qui aient des lunes aussi grosses, proportionnellement à leur taille. Et en fait, on sait maintenant que cette lune-là est le résultat d'une collision majeure entre une planète qui avait à peu près la taille de Mars et puis une Terre qui était déjà assez formée. Et que, d'un point de vue de probabilité, cette collision majeure, en fait, est très, très faible. Du moins, la probabilité est très faible. Or, cette Lune a un rôle fondamental dans la mesure où elle stabilise la rotation de la Terre et elle permet finalement à la température de la Terre d'être relativement agréable. Ça, c'est le premier fait. Par exemple, maintenant, on s'aperçoit également que sur Terre, il y a de la tectonique des plaques. La tectonique des plaques, c'est quelque chose qui a emmagasiné dans les profondeurs de la Terre énormément de carbone, en particulier en fait de gaz carbonique. Et tout ce gaz carbonique est parti de l'atmosphère. Et le résultat, c'est que par exemple, aujourd'hui sur Terre, il y a autant de gaz carbonique que sur Vénus. Mais sur Terre, il est sous forme de calcaire, en gros. Le résultat, c'est que sur Vénus, en fait, on a une température à la surface qui est de plus de 500 degrés, donc incompatible avec la vie. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a des éléments probabilistes, je dirais, autres que juste la position d'une planète à une distance du Soleil, qui font que la distance à laquelle on pourrait imaginer trouver une forme de vie peut varier considérablement.
Mmh. Oui,
Monsieur Edman,
c'est sûr. Tout ça, c'est sûr. C'est pas garanti que une planète qui serait à bonne distance, etc., aurait la vie. Mais d'un autre côté, il y a tellement de planètes dans le cosmos qu'on peut se dire quand même, ça peut arriver. On ne dit pas que ça a arrivé. On dit que ça peut arriver. Pour savoir si c'est oui ou non, on tente d'en détecter des effets. Voilà. Mmh. Mais à ce point de vue-là, il y a des tas de conditions. Scabreuse pour la vie sur la Terre. Hein. On a failli crever tous plusieurs fois, ça c'est sûr. Mais les biologistes, alors, qui s'occupent réellement du développement de la vie, sont encore plus intransigeants. Il y en a même qui disent c'est impossible que la vie apparaisse ailleurs. Mais là, ils exagèrent. Voilà. Il faut une balance et ça sera à l'observation de décider.
D'accord. Alors, justement, là, moi, toujours par rapport aux élèves que j'ai été rencontrés au collège de Breval, c'est vrai qu'on parle d'OVNI des fois. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai vu ça ». Alors moi, j'aurais posé la question « Croyez-vous aux OVNI ?» Et on écoute tout de suite leur réponse.
Ah bon,
je crois parce que moi personnellement j'en ai pas vu, mais plusieurs gens en ont vu. Tout le monde dit que c'est des Russes qui observent plusieurs choses, des expériences.
Oui, parce que ma mère elle en a vu un quand elle était petite. Ça ressemblait un petit peu à une soucoupe, elle m'a dit.
Ouais, j'y crois, sauf que j'en ai jamais vu. Ça se trouve qu'ils volent de galaxie en galaxie avec des ovnis. Ou peut-être avec d'autres objets.
Oui, avec ma famille, on est sorti une fois, on a cru en voir une dans le ciel, dans la campagne.
Voilà, donc, quelle serait votre réaction?
Vous m'avez eu tout à l'heure avec la première partie de l'interview de ces jeunes. Alors, je suis désolé, ces pauvres sont victimes de mauvais médias. De mauvais médias. Alors, si vous vous tombez dans les ovnis, ben, je penserais que vous êtes un peu parmi les mauvais médias. Bon, ça ne veut pas dire que je sois fermé à la possibilité d'ovnis. Physiquement, techniquement, d'après les lois de la nature, ça pourrait exister. Mais jusque maintenant, il n'y a rien eu de valable. Même la phrase « jusqu'à maintenant ». Pas demain, hein, jusqu'à maintenant, on n'a aucune indication scientifique sérieuse indiquant qu'un ovni provienne d'une civilisation extraterrestre. Mmh. Point.
Alors, justement, pourtant, il y a une psychose, notamment, de ces gens qui disent avoir vu des objets volants non identifiés. Alors, est-ce que c'est eux qui ont inventé ça pour se rendre, pour en fait, se rendre intelligent, enfin, je veux dire, pour faire un peu comme tout le monde, puisque un peu tout le monde fait ça? Ou est-ce que c'est vraiment la réalité qu'ils ont pris une lanterne pour une vessie?
D'abord, c'est entretenu par les mauvais médias, ça fait vendre des bouquins débiles complètement. Et puis, il y a un désir profond des humains de penser que dans le cosmos, dans la voûte étoilée, dans le ciel étoilé, il y aurait d'autres êtres plus ou moins semblables à nous. C'est un désir fondamental des humains. Mais s'il n'est pas contrôlé sérieusement dans son étude, ça va loin, ça dérive.
On peut donner une anecdote. Il y a quelques années, il y a une sonde américaine qui a été perdue alors qu'elle allait se mettre en orbite autour de Mars. Et une certaine frange, en fait, de la population américaine, il y a même eu des journaux qui ont utilisé cette idée. En gros, on a émis l'hypothèse que la sonde avait été détruite par la NASA dans la mesure où elle avait vu des dinosaures qui couraient à la surface de Mars. Et il y a eu des journaux américains qui ont publié, en fait, cette nouvelle. Donc je pense que quelquefois, c'est vrai que sur le thème de la conspiration, on est capable d'aller très loin et certaines personnes, en fait, sont capables de rentrer complètement dans cette idée de conspiration et à la fin, plus aucun argument sérieux n'est capable de les atteindre.
D'accord. Oui. Alors, Oui, je vois Monsieur Neumann qui voulait réagir. On va d'abord faire une pause musicale et puis on revient donc toujours sur ce sujet juste après pour la suite des questions. A tout de suite. De retour donc dans les studios de Radio Droit de Cité pour la seconde partie donc de cette émission consacrée à Sommes-nous seuls. Et on va toujours en restant sur le sujet extraterrestre. J'ai rencontré donc des élèves, comme je vous le disais tout à l'heure, du collège Les Nénuphars à Bréval. Et là, on va encore écouter une de leurs réponses. Je leur ai posé la question, si vous rencontrez un extraterrestre, quelle serait votre réaction?
Déjà, j'essaierai d'en savoir plus sur lui, extraterrestre, comment se passe sur sa planète. Et puis, s'il a une drôle de réaction, s'il pointe son arme sur moi, comme on dit, j'aurai une mauvaise réaction.
J'essaierai un peu d'apprendre sa langue, j'essaierai de comprendre ce qu'il dit. J'aurais un petit peu peur, mais j'essaierai quand même de devenir ami avec lui ou elle, et faire un petit peu comme dans, par exemple, E.T.
Voilà, donc, vous vouliez réagir
Bon, c'est ça, oui. S'ils en rencontrent un, ils essaient d'en savoir plus. Alors, la question d'armes, pourquoi ils auraient a priori des armes? Ça, c'est la culture vidéo, télévision. Pour les jeunes en particulier, les jeux, on s'attaque, on se tue et dans le virtuel, et puis ça finit par tuer 25 élèves dans une école en Amérique.
Ouais, voilà. Bon. Très bien. Très belle réaction. Alors là, justement, la question que je voulais vous poser maintenant, c'est quels sont les moyens employés pour trouver des signaux extraterrestres?
Alors, les moyens. Bon, on n'imagine pas nécessairement que d'autres nous envoient des signaux intentionnels pour nous. Si c'est comme ça, c'est tant mieux. Mais une grosse civilisation, une grosse technologie doit émettre des ondes parasites, et nous, on essaie de capter des ondes parasites, et pour l'instant, étant donné les propriétés des distances intersidérales qu'il faut parcourir, les meilleures ondes avec lesquelles il faut commencer, avec notre technologie, ce sont les ondes radio, comme celles des micro-ondes, des ondes radio courtes, une dizaine de centimètres, 10 fois votre fréquence à vous, là, 100 mégas, c'est 100 mégas, ben, là, c'est... 1 giga, etc. Ok, bon. Alors pour ça, ce sont les radios autonomes qui se présentent tout naturellement avec leur technologie qui existe depuis plus de 50 ans maintenant, et les grands radiotélescopes. Bien. Mais alors le problème est considérable parce qu'on ne sait pas parmi les ondes radio en question sur quelle fréquence on pourrait recevoir des émissions. Alors la nature est telle qu'il y a 100 milliards de fréquences possibles. Bon, ici à Mantes-la-Jolie, il y a combien de fréquences FM? Une dizaine peut-être. Bon, mais là, c'est
plus quand même.
Oui, ok. Mais c'est pas 100 milliards. Alors, le gros problème, ça a été non seulement d'avoir des grands radiotélescopes, ça va, mais d'avoir des récepteurs qui étaient capables d'écouter simultanément le plus grand nombre possible de fréquences. Et quand on a commencé ça, le premier qui a fait ça, c'est un étudiant qui préparait sa thèse. Il a demandé à son chef de se lancer là-dedans. Il n'avait qu'un canal d'écoute. Donc, un canal d'écoute seulement. Et puis après, ça a progressé. Les radiosonomes avaient des instruments courants avec 1000 canaux d'écoute, mais c'était pas suffisant. Et là, il faut reconnaître que c'est la NASA qui a lancé l'opération majeure de se dire on veut 10 millions de canaux d'écoute simultanés. Alors, il y a eu des crédits importants qui ont été donnés par le gouvernement américain sur ça, public, connu de tout le monde. Il n'y a pas encore d'histoire de secret là-dedans. Et puis maintenant, bon, crédit coupé, donc en 93 par le Congrès américain, repris aussitôt par un institut privé, avec des fonds privés, qui marchent très bien, et puis développé aussi dans d'autres universités américaines, françaises, italiennes, etc. Et maintenant, on en est avec les progrès de la technologie, qui est basée essentiellement sur la technologie de l'informatique, à des systèmes qui sont capables d'écouter simultanément 1 milliard de canaux. Donc, progrès considérable. Et la technologie est telle que tous les 10 mois, la technologie double d'efficacité. Donc, on a un avenir rayonnant devant nous pour tenter de penser qu'on pourra finir par réussir.
Réussir à trouver des signaux extraterrestres. Oui, monsieur Le Sieur.
Oui, je voulais juste ajouter que, effectivement, la question de savoir comment, quoi essayer de détecter dans l'espace, c'est déjà la question primordiale qui se pose. Et puis, comme Jean Heidmann a travaillé pendant 40 ans dans ce domaine-là, il sait bien de quoi il retourne. Actuellement, on se pose un certain nombre de questions qui sont nouvelles. Et par exemple, on a eu comme idée l'idée de se dire ces gens-là pourraient également être capables, avec des technologies légèrement plus avancées que la nôtre, de fabriquer des énormes lasers. Et puis alors, ces lasers, c'est pareil que les ondes électromagnétiques, il y a moyen de les pulser aussi. Et donc, par conséquent, on pourrait prétendre arriver à envoyer des messages codés à l'aide de faisceaux de lumière, au lieu de les envoyer à l'aide de faisceaux d'ondes radio. Bien, jusqu'à présent, c'était resté simplement dans les cahiers, et puis actuellement, donc, on doit commencer à faire des recherches dans ce sens-là,
en fait,
si j'ai bien compris.
Ça a été lancé par les Soviétiques il y a au moins 30 ans, avec le plus grand télescope optique du monde, celui du Caucase, dont le miroir fait 6 mètres de diamètre. Et puis le chercheur est tombé malade et est mort, et ça a été abandonné. Mais ça a été repris ces années-ci par les Russes. Oui, les Russes. Et maintenant, ça vient d'être pris par l'université de Harvard, avec des moyens technologiquement évolués comme ceux dont vous parliez à l'instant.
Très bien. Alors, donc voilà au niveau. Mais alors, il y a une question que je me pose quand même. C'est parce que vous parlez d'envoyer des signaux codés extraterrestres, enfin des signaux codés, pardon, de lumière et tout ça. Mais il faudrait se demander aussi, il faudrait peut-être prendre la manière la plus bénigne. Parce que je veux dire, s'il y a un extraterrestre qui reçoit ce message, ils n'ont peut-être pas une technologie aussi importante que la nôtre. Je ne sais pas.
Bon, ben si. Bon, d'accord. En fait, ça dépend énormément de la durée de vie de ces technologies avancées. S'ils vivent 100 ans comme la nôtre risque de le faire dans un proche futur, hein, de disparaître par sa sottise, en définitive, on a peu de chance. Mais s'il existe des technologies qui vivent 1 million d'années, là, les chances de réussir sont beaucoup plus grandes. Alors déjà sur Terre, on a l'exemple d'une technologie intelligente, qui est celle des bifaces en silex taillés faits par Homo erectus. Pendant 1 million d'années, ces gens-là se sont transmis la façon de faire des bifaces extraordinaires quand même. Donc, mais ils n'étaient pas capables d'émettre d'ondes radio. Donc une technologie extraterrestre du genre Homo erectus, zéro, on ne peut pas la détecter. Mais il y a peu de chances statistiquement que s'il y a des technologies avancées ailleurs, que l'on pourrait détecter, elles soient juste à notre niveau à nous. Si on les détecte, elles seront à des niveaux beaucoup plus avancés. Et à ce moment-là, on se lance dans la recherche de ce qu'on appelle des émissions parasites d'astrotechnologie à grande échelle. Des constructions gigantesques tenant tout un système planétaire, utilisant des énergies comparables à l'énergie rayonnée par leur étoile, etc. Donc ça devrait être détectable si ça existe.
Mm-hmm. D'accord. Monsieur le Sueur, vous vouliez intervenir ?
Juste pour ajouter que, d'ailleurs, dans l'autre sens aussi, on fait des démarches, c'est-à-dire on recherche également des indices, non pas d'intelligence, mais des indices de vie tout court, ou bien alors simplement de lieux possiblement favorables. Alors par exemple, on va essayer de rechercher si on peut, à terme, parce que pour l'instant c'est encore un peu juste, mais on va essayer de rechercher si on est capable de détecter des planètes qui ressemblent à la Terre. Mmh. On va essayer de détecter si on peut trouver des planètes sur lesquelles on trouve de l'oxygène, etc. Et puis, dans le domaine d'ailleurs des ondes radio elles-mêmes, il faut dire que des gens qui seraient par exemple à notre niveau de capacité pourraient très bien être détectés, même si ils n'essayaient pas intentionnellement de nous contacter. Mmh. Parce que jusqu'à une certaine distance, il faut bien dire que la Terre, l'activité de l'homme sur la Terre est détectable. Je ne sais plus, Jean Heidmann serait peut-être capable de le dire, je ne sais plus jusqu'à quelle distance on pourrait détecter notre télévision par exemple.
1000 années-lumière, à condition que les rayons soient allés là-bas. Donc il faudrait que la télévision ait existé depuis 1000 ans.
Bon, alors, ça, c'est il faudrait que la télévision existe depuis 1000 ans.
Technologiquement, on peut communiquer sur des distances interstellaires.
D'accord. Il reste 2 minutes, monsieur Heidmann, vous vouliez dire quelque chose
Je ne sais plus. Ah oui, à propos de ces astro-technologies très importantes, plus importantes que la nôtre, j'ai un projet fumant avec des Italiens qui s'occupe d'astrodynamique, ça serait d'envoyer une sonde spatiale, ce serait un radiotélescope quelconque, en dehors du système solaire, à 20 fois la distance de Neptune et Pluton, donc nettement dans l'espace extrasolaire, pour le placer, cette espèce d'oculaire, au foyer gravitationnel de l'effet de lentille du Soleil. Le Soleil agit par sa gravitation comme une lentille, donc on aurait à notre disposition un télescope avec un objectif de 1,5 million de kilomètres de diamètre, avec un oculaire là-bas, et avec ça on pourrait détailler des astrotechnologies sur d'autres planètes. Et même, je pense, enfin j'ai pas fait les calculs encore, mais je vais m'y mettre, on pourrait détecter l'infrarouge émis par des grosses villes comme Los Angeles ou Mexico. Donc, ça peut y aller là aussi.
Voilà, donc au sujet de la rubrique Sommes-nous seuls. Alors, on va terminer par un tour de table donc pour conclure cette émission. Donc, monsieur Lognonnet, si vous avez quelque chose à dire.
Je pense que pour tous ces problèmes de vie, finalement, on s'aperçoit aujourd'hui que l'évolution finalement scientifique est un petit peu de comprendre si la vie existe, ça c'est un terme, quelque chose de très important, mais aussi si la vie a disparu, pourquoi elle a disparu. Et là-dedans, en fait, l'exploration planétaire est quelque chose qui est très important dans cette compréhension de la disparition de la vie, si toutefois elle a déjà existé ailleurs que sur Terre.
D'accord. Monsieur Jean-Marie Delbos, pour conclure cette émission, sur cette série de 4 émissions. Hein.
Je voudrais préciser que le transport spatial peut être supporté de façon active par l'activité commerciale, hein, qui permet de financer largement ces programmes, et que par contre, elle a aussi pour objectif d'explorer l'univers, de permettre l'exploration de l'univers. Aujourd'hui, Aérospatiale travaille bien sûr sur l'amélioration de ce transport spatial dans le domaine des satellites, mais également sur des engins qui utiliseraient d'autres sources énergétiques pour faire des voyages interplanétaires lointains.
Monsieur Jean-Edman ?
Oui, rapidement. Alors, vous avez mené très très bien ces 4 émissions. Et alors j'ai une crainte, c'est que ça ne soit diffusé que dans le périmètre de Mantes-la-Jolie. Si c'est comme ça, je souhaite qu'elle soit diffusée beaucoup plus.
On est même quand même dans un rayon de 40 km autour de Mantes-la-Jolie.
Ok, hein. Mais je souhaite que vous alliez plus loin.
Monsieur Lossien.
Jusqu'à 1000 années-lumière.
Voilà.
Monsieur Lossien.
Oui, moi je trouve aussi que les 4 émissions que vous avez faites là étaient intéressantes. On a essayé d'apporter certains éléments. Hein. Je crois que la quête de l'homme par rapport à l'univers est loin d'être en perspective de s'arrêter, que heureusement l'homme va continuer à se poser beaucoup d'interrogations par rapport au cosmos, et il faut encourager tous ceux qui toute leur vie essaient de faire des recherches dans ces domaines-là, et en particulier dans le domaine de la recherche potentielle de vie intelligente ailleurs.
Oui, puis les jeunes là, qu'on a entendus aussi, ça c'est bien.
Monsieur Minois.
Ben moi j'en veux terriblement à Jean Edman.
Ah bon ?
Mais ce n'est que par respect pour ses cheveux blancs que je ne lui vole pas dans les plumes. Il m'a coupé l'herbe sous le pied, je voulais dire ce qu'il a dit.
Ah ben ça c'est
d'accord.
Bien.
D'accord. Bon, je remercie aussi le public. Je remercie mon réalisateur qui m'a accompagné pendant ces 4 jours, Fahim, donc je remercie beaucoup, et je remercie aussi la direction de Radio Droite Cité de m'avoir permis de faire cette émission. Alors rendez-vous au 11 août pour cette éclipse de soleil, surtout à ne pas manquer. Merci de nous avoir suivis ce soir, au revoir, et puis au 11 août.